Laurent Godet, vous faites donc partie des 560 romanciers français ou étrangers publiés d'ici octobre. Quelle réflexion vous inspire ce chiffre spectaculaire, hein, cette particularité si française de ce qu'on appelle la rentrée littéraire ?
C'est une énigme, c'est vrai qu'on est un peu les seuls à faire ça, mais en même temps c'est le moment de l'année où il y a aussi le plus de place pour parler des livres, donc on peut aussi le voir comme une espèce de fête où finalement ça parle quand même beaucoup de littérature.
On va dire une sorte de grand carrefour où on peut tous se retrouver autour des bouquins, échanger, faire des prévisions.
Il y a des embouteillages, évidemment il y a du monde, mais en même temps on n'en parle jamais autant qu'à ce moment-là, donc... Réjouissons-nous.
Vous êtes d'ores et déjà l'un des gagnants de cette rentrée, hein, selon le palmarès L'Express RTL, je le rappelle. Votre livre « Écoutez nos défaites », édité par Actes Sud, réussit le meilleur démarrage, juste derrière celui d'Amélie Nothomb. La fidélité des lecteurs, 12 ans après votre prix Goncourt pour Le Soleil d'Escorta, ça vous surprend ?
Oui, ça me surprend. C'est le plus beau des cadeaux, parce que c'est vrai que quand il y a un succès ponctuel, on vous dit avec un peu de malice, oh là là, ça durera pas, d'où il sort celui-là. Le fait que, année après année, les lecteurs sont fidèles, c'est vrai que c'est un super beau cadeau. Et puis ça préserve un peu de ce que vous venez de décrire. C'est-à-dire, il y a un côté un peu course de cheval, effectivement, au début, les rentrées littéraires, alors sur qui cette année ça va tomber, etc. Le fait de pouvoir inscrire comme ça un petit peu dans la durée, dans une espèce de relation quand même à la fois d'attente, mais rien que ça, c'est énorme.
Un lien qui se tisse, en fait.
Oui, et puis d'être attendu par les lecteurs. Moi, je n'en reviens pas d'être attendu.
Laurent Godet, vous l'expliquez comment, justement, ce lien, cette fidélité des lecteurs ?
Je ne l'explique pas, je m'en émerveille, mais je ne l'explique pas. Non, je ne sais pas. En plus, ils vieillissent, c'est-à-dire que moi, on vieillit ensemble, ce qui est quand même aussi assez chouette. Je me souviens, je croise maintenant des jeunes gens qui étaient dans le jury du Goncourt des lycéens en 2002, qui m'a été donné pour La mort du roi de Sangor, et qui aujourd'hui sont profs de lettres. Et recommandent le même livre à leurs élèves, c'est super.
Bernard ?
Oui.
Écoutez nos défaites est donc l'un des grands coups de cœur de Laissez-vous tenter. Et comme souvent dans ses romans, Laurent Godet s'inspire de l'actualité.
Mais oui, après l'ouragan Katrina dans Ouragan, justement, le séisme en Haïti avec Danser les ombres ou Les migrants dans Eldorado, vous mettez en scène la rencontre d'une femme et d'un homme en lutte contre la barbarie islamiste. Elle, Mariam, est irakienne et archéologue. Elle tente de sauver les trésors du Moyen-Orient de la folie destructrice de Daesh. Lui, Hassem, est un agent des services secrets français envoyé pour une ultime mission très spéciale. Ils vont s'aimer, et bien plus que ça, le temps d'une nuit. Mais le livre va plus loin, et autre habitude chez vous, vous convoquez la grande histoire et vous racontez trois autres guerres. Celle d'Hannibal contre Rome, du général Grant face aux confédérés, et de l'éthiopien Haile Selassie contre Mussolini. En quoi, Laurent Godet, ce passé-là nous aide à mieux comprendre notre présent ?
Je ne sais pas si la question ne se pose pas comme ça pour moi. Il ne s'agit pas d'aller chercher chez Haile Selassie quelque chose qui éclairerait aujourd'hui. Il s'agit d'interroger une notion, celle de la défaite et donc de la victoire, et donc pour ceux de convoquer différents exemples et de décliner en fait un certain nombre de ces exemples-là pour faire des comparaisons, pour voir les divergences, pour voir à quel point la guerre a changé aussi, à quel point aujourd'hui, à l'ère du drone, à l'ère de la distance dans la guerre, à l'ère de la technologie, on parle moins de héros, on parle moins de bravoure, on parle moins de risque, ou en tout cas pas de la même manière. Tout ça, ce sont des bouleversements profonds. On parle même moins de victoire. C'est une question importante. Est-ce qu'aujourd'hui, le but des guerres, c'est la victoire ?
Vous avez un doute ?
Oui, j'ai un doute. Je suis pas le seul. Je reprends la pensée de Naomi Klein qu'elle développe dans la stratégie du choc. C'est-à-dire à partir du moment où une certaine guerre se privatise, est-ce que gagner vite est un objectif ou est-ce que traîner longtemps n'est pas plus productif ? Enfin voilà, toutes ces questions, ce sont des questions de la modernité. Et faire un détour par l'antique ou par l'histoire permet peut-être aussi de mettre en résonance toutes ces choses-là.
Alors justement, à propos de ce passé, les vaincus, vous venez de parler de la notion de défaite, les vaincus sont parfois plus grands que leurs vainqueurs. C'est le cas d'Hannibal, qui est bien plus célèbre aujourd'hui que Scipion, le général romain, qui l'a défait, qu'on a un peu on a bien oublié, il faut le dire.
Oui, c'est merveilleux ça, cette espèce de renversement. C'est le temps qui fait ça. C'est-à-dire qu'Hannibal est devenu, mais même de son vivant, assez vite un mythe, en fait. Cette espèce de figure de l'opposant à l'Empire romain. Moi, j'ai découvert, je l'avoue très humblement, en me documentant, que Hannibal n'était pas mort lors lors de la dernière bataille avec l'Empire romain. Il a vécu encore assez longtemps. Il y a au moins une vingtaine d'années pendant lesquelles c'est une figure de résistant en exil, on va dire, du côté de ce qu'aujourd'hui on appelle le Liban, la Turquie. Il se réfugie là-bas et avec toujours cette idée qu'un jour il reviendra. Et donc il est une menace permanente. Et c'est là que naît le mythe du retour d'Hannibal, le mythe de peut-être un jour l'Empire romain vacillera, on aurait dû le tuer, etc., etc. Et il partage en plus avec Haïlé Sélassié, avec Alexandre le Grand, avec un certain nombre, avec aussi Ben Laden et Kadhafi, le fait que sa dépouille n'a jamais été retrouvée. Et ça aussi, ça crée le mythe. C'est-à-dire, où est-il ?
Matière à fantasme.
Matière à fantasme.
Absolument. Alors, le chef d'une guerre juste, le général Grant, qui déboucha sur l'abolition de l'esclavage aux États-Unis, était aussi un boucher sur le champ de bataille. C'est-à-dire que ce double paradoxe, voilà, la guerre juste, mais le type qui est monstrueux sur le champ de bataille, ça,
c'est, ce qui
c'est une matière littéraire.
C'était son surnom d'ailleurs, hein, général boucher. Grant, le boucher.
Oui, ou le boucher ou l'ivrogne. Oui. Donc, dans les deux cas, c'était pas très. Mais oui, non, c'est le paradoxe. Moi, je suis pas là dans le livre pour dire que Grant a eu tort parce que c'est un boucher. C'est évidemment plus compliqué. Évidemment que la victoire du clan de l'Union est intéressante d'un point de vue du sens de l'histoire. C'est la fin de l'esclavage, c'est l'Union aussi, parce que sinon il y aurait eu un pays éclaté. Mais il n'en reste pas moins qu'il a théorisé. Ce qu'on appelle aujourd'hui la guerre totale, c'est-à-dire qu'il a demandé à Sherman, son ami, de faire ça, de brûler les villages, de tuer le bétail, de voilà, ils avaient des phrases terribles, d'une lucidité terrible, hein, une guerre, il faut gagner la guerre et pour la gagner, il faut qu'elle soit rapide, pour qu'elle soit rapide, il faut qu'elle soit brutale. C'est le début de cette théorisation-là. Alors, ça pose des questions qui sont vertigineuses, mais est-ce que la littérature n'est pas un peu là pour ça ?
Alors, Sélassié, c'est intéressant aussi, parce que là, vous montrez qu'on peut être un héros et finir comme une espèce de salaud. Bon, Sélassié, c'est d'abord le défenseur de son pays, occupé par Mussolini, l'Italie fasciste, et puis il finit en vieil empereur, tyrannique, mégalomaniaque.
Oui, et moi, pour moi, hein, ça c'est personnel, mais Sélassié, il est magnifique dans la défaite. Il y a ce fameux discours à ce qui était à l'époque la SDN, la Société des Nations.
Avant l'ONU.
Avant l'ONU, voilà, qui est un discours magnifique. Et alors là, pour le coup, qui résonne beaucoup aujourd'hui, parce que sur le concert des nations, sur la place des petites nations, sur la place qu'on ne fait pas aux petites nations, sur le fait que ça finira toujours les grandes nations finiront toujours par s'arranger entre elles, et personne n'a envie à l'époque de mourir pour l'Éthiopie. Il voit tout ça, il dit tout ça devant le concert des nations, et c'est un très très beau discours. Après, effectivement, quand il revient au pouvoir, il devient un peu laid.
Laurent Godet-Bernard évoquait il y a quelques instants Mariam et Hassem. Pourquoi avoir choisi comme combattant moderne, justement, non pas un soldat, mais un agent secret ?
Parce que j'avais envie d'un personnage qui soit pas dans un cadre trop rigide d'intervention, d'obéissance, qui soit dans des zones grises, comme ça, avec une certaine marge de liberté personnelle. On peut imaginer que dans ces opérations-là, il y a quand même beaucoup de choses qui reposent sur ses épaules. Et puis parce que j'avais été assez frappé par le livre de Nouzi qui s'appelle « Les tueurs de la République », et qui retrace comme ça, sur les derniers septennats ou quinquennats en France, la pratique qu'ont eu nos présidents vis-à-vis de cette chose qui existe, hein, les tueurs de la République, c'est nos tueurs officiels qu'on envoie faire des attentats ciblés ou des
assassinats. Nos tueurs officieux.
Officieux, oui, mais en même temps.
Parce qu'officiellement, ils ne sont pas censés le faire.
En même temps,
on sait qu'ils le font. Voilà.
Et alors, justement, ils ne peuvent pas être des héros, puisqu'ils sont anonymes par définition. Donc, le héros disparaît dans la guerre d'aujourd'hui, dans cette guerre-là.
Oui, le héros, ça devient compliqué. Comme aux États-Unis, ceux qui ont participé à l'opération qui a mené à la mort de Ben Laden. Alors, les États-Unis essayent de faire ressortir de temps en temps des figures héroïques comme ça. Ils l'ont fait avec ce personnage qui est mort maintenant, mais qui a existé, qui s'appelle Kyle. Et puis, vous savez, le sniper dont Eastwood a fait un film. Ça, on voit bien que ça marche pas très bien. C'est-à-dire que il y a plus cette espèce de figure héroïque incontestable, parce que la guerre aujourd'hui se fait autrement.
Alors votre agent français, là, vous laissez entendre qu'il était présent au moment de l'arrestation et du lynchage de Kadhafi en Libye. C'est une révélation, vous nous faites tout, c'est une fiction,
non,
Laurent Godet.
Je suis romancier et j'aime inventer des choses dans les petits plis de l'histoire. Donc c'est vrai qu'il y a une zone là qui m'intéressait, oui, de voir qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là, effectivement, dans la foule en colère sur cette route entre Sirte et Misrata. C'est intéressant.
Il faut dire que ce sont des pages stupéfiantes dans votre roman, c'est ce moment-là.
Et on va passer maintenant aux audiences télévisées de notre soirée d'hier avec Isabelle Morini-Bosque et Média Maîtrise, Isabelle.
Eh bien, écoutez, je suis contente, parce que la rediffusion du Polar Montagnard Alex Hugo sur France 2 fait presque aussi bien que l'excellente série Blacklist sur TF1. Plus de 3 500 000 pour le bilan sur la 2, 3 930 000 sur TF1 et quasiment 18% du public pour chacune des deux chaînes. C'est très bien. Zone interdite est en sa moyenne, 2 700 000 téléspectateurs devant le plus grand paquebot du monde, ils nous mènent en bateau. Et leur côté TNT, c'est Joséphine Ange Gardien, inoxydable, sur NT1, qui rassemble près de 1 million de téléspectateurs. Et côté programme, noté ce soir sur M6, Unité sans frontières, une série critiquée parce qu'on y voit un super FBI secourir dans le monde entier de pauvres Américains menacés partout. Et ma faiblesse, c'est sur Canal Plus Viking saison 4. Une cinquième saison a été décidée qui sera tournée au Maroc. Et ça, c'est fort. Pardon, c'est Fjord.
Nous marquons une pause avant de retrouver notre invité Laurent Godet et son livre « Écoutez nos défaites » publié chez Actes Sud avec Bernard Lehu et toute l'équipe.
RTL Matin, laissez-vous tenter avec Yves Calvi.
9h12, merci d'écouter RTL. Nous sommes toujours en compagnie de Laurent Godet avec grand plaisir, qui signe l'un des succès d'ores et déjà de la rentrée. Écoutez nos défaites, c'est le titre de ce livre publié chez Actes Sud. Nous vous le ferons gagner tout à l'heure, dédicacé de surcroît par l'auteur. Alors, il y a une femme dans votre roman, ne l'oublions pas, d'autant qu'elle est formidable, hein, c'est Mariam, l'archéologue irakienne qui tente de sauver de la folie destructrice de Daesh les trésors artistiques du Moyen-Orient. En quoi ce combat-là est tout aussi important que celui mené militairement, selon vous ?
Pour deux raisons pour moi. D'abord parce que moi personnellement ça me touche et je ne pense pas être le seul. C'est quand même un peu aussi le sens de nos vies, il est là. La beauté architecturale d'un temple grec ou des temples de Palmyre, ça donne du sens à l'existence, à nos existences à tous. Et la deuxième raison c'est que ce sont les mêmes ennemis qui à la fois détruisent ces vieilles statues, ces vieux temples et ensuite vont tuer des gens dans nos rues. Donc y a un ennemi commun et donc ce sont les mêmes personnes. La chronologie, je repense à l'année 2001 qui nous a mené, on va dire, à la séquence qui mène aux attentats du 11 septembre. Ça commence par la destruction des grands bouddhas de Bimayan en Afghanistan.
Oui.
Voilà. Ensuite, il y a le meurtre de Massoud et ensuite, il y a les attentats du 11 septembre. Ça veut dire que c'est d'abord les vieilles pierres, les statues, ensuite les opposants ou les ennemis et ensuite le meurtre de masse. C'est une lecture qu'on peut faire quand même et qui se retrouve aujourd'hui. On a eu à la fois Palmyre et le Bataclan ou l'hypercachère.
C'est une même barbarie, en fait, qui veut nier en plus toute histoire de l'humanité, c'est-à-dire ce qui fait notre essence commune et notre égalité les uns et les autres, est remise en cause à partir du moment où on tire sur ces bouddhas.
Oui, je pense. C'est les forces de l'obscurantisme. Moi, je fais partie d'une génération qui, très sincèrement, mais vous aussi, j'imagine, ne pensez pas avoir dans son existence à vivre ça.
Jamais.
Le retour d'un obscurantisme aussi brutal. Et donc aussi d'un positionnement et d'une lutte de notre part vis-à-vis de ça. Moi, je ne pensais pas avoir à dire que oui, j'ai envie de pouvoir continuer à boire un verre de blanc à la terrasse d'un café avec une femme qui montre ses cheveux, qui a été éduquée, qui rit, qui est belle et qui est mon égale. Je ne pensais pas avoir à redire ça. Et ben, on vit dans une époque où il va falloir remonter un petit peu au créneau vis-à-vis de ces choses-là. Ce qui est absolument tragique pour évidemment beaucoup de raisons, mais il y a peut-être un point positif, c'est que ça peut faire redémarrer une sorte de passion civique dans ce qu'on a envie d'être. Voilà. En tout cas, c'est
pour
une petite bouteille à la mer.
Pour ce que vous venez de dire, et des femmes aux terrasses des cafés, que pensez-vous de la polémique du burkini là, qui vient de faire la une de l'actualité ces derniers jours?
Je ne pense pas que ce soit comme ça qu'on réglera les choses. Je trouve cette polémique, c'est vraiment, je la trouve la polémique du mois d'août, quoi. C'est-à-dire essayer vis-à-vis d'un problème compliqué de fond, de se tortiller les cheveux sur des choses. En plus, à partir du moment où on nomme le problème comme ça, il est quasiment... c'est déjà mort. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'on puisse interdire le burkini sur les plages. C'est absurde. Les femmes ont le droit de mettre... Alors après, on va faire quoi ? On va mesurer la masse de tissu qu'il y a sur les gens. On va regarder si ça va au-dessus du genou ou en dessous du genou. C'est-à-dire qu'on va faire exactement ce que font les autres dans l'autre sens. Je pense que nos valeurs sont plus fortes que ça. Elles méritent mieux que ça.
Alors, nos valeurs sont plus fortes que ça, ça amène une question, c'est que vous semblez dire qu'une guerre comme celle menée par l'État islamique est perdue d'avance pour les djihadistes. Pourquoi ? J'interprète bien votre pensée ?
Moi, je serais pas loin de dire ça dans la mesure où... Non, je ne sais pas si elle est perdue. Je sais qu'il ne peut pas y avoir de renoncement de notre part. Ça, j'en suis persuadé. Et je ne pense pas être le seul. C'est-à-dire que, voilà, on a lu Diderot, Voltaire et Rabelais depuis trop longtemps pour renoncer aujourd'hui. Ce n'est pas possible. Moi, ma fille, elle a appris à lire.
Fragile, hein.
Et elle ne désapprendra pas à lire. Alors oui, oui, mais la civilisation
c'est
fragile.
C'est au pays de Mozart et des grands auteurs et grands musiciens que les nazis émergent aussi.
Bien sûr, je ne dis pas que c'est acquis. Je dis qu'en tant qu'individu, il y a un certain nombre de choses sur lesquelles je sais que je ne renoncerai pas. Je ne sais pas si je vais réussir. Effectivement, on le voit en Irak, dans le nord de l'Irak, on le voit en Syrie. Du jour au lendemain, en Afghanistan, il y a des gens qui fumaient, à qui on a dit « vous ne pouvez plus fumer dans les rues », qui allaient à l'université, à qui on a dit « vous ne pouvez plus aller à l'université ». Donc je ne sous-estime pas le fait que ça peut arriver du jour au lendemain. Pas chez nous non plus tout de suite, ne nous énervons pas. Mais c'est pour ça que je disais que la nécessité de remonter au créneau, elle est plutôt intéressante, passionnante et assez belle. C'est un combat à mener individuellement. Mais je ne pense pas qu'il puisse y avoir de renoncement de notre part. En ce sens-là, le combat, il peut pas être perdu.
Et alors ce combat, il passe entre autres par les mots, par des livres comme les vôtres. Est-ce que le mot peut être une arme contre le terrorisme ?
La question de l'efficacité d'un roman vis-à-vis de la barbarie, elle est
très
très relative. La nécessité, par contre, de continuer à faire ce geste-là, le geste d'écrire, comme le geste de peindre, comme le geste... Là, si on place ça comme ça, peut-être que oui, on peut dire que continuons à faire de la musique, des concerts, à écrire des livres. Continuons, bien sûr, c'est notre vie.
Et puis, nommer le mal, le désigner, c'est aussi le combattre, d'une certaine manière.
Oui, en tout cas, d'accepter. Moi, c'est pour ça que j'ai eu envie. En fait, paradoxalement, le livre Écouter nos défaites est né d'abord avec les trois périodes historiques dont on parlait. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, il faut que le monde d'aujourd'hui soit dans ce roman-là, parce que ça a du sens. Et parce que j'ai pas envie de tenir à distance ce qui se passe aujourd'hui du côté de Mossoul, du côté de la Libye. Au contraire, j'ai envie de le convoquer, puisque ça résonne dans cette verticalité dont on parlait, qui est que l'histoire a des échos, qui est que l'archéologie fait un lien entre hier et aujourd'hui. Et donc, laisser le monde d'aujourd'hui avec toutes ces convulsions entrer dans mon roman, c'est un geste effectivement qui n'est pas anodin. Maintenant, est-ce qu'il va changer la face du monde? J'en suis pas certain.
Une dernière question. Écoutez nos défaites, c'est le titre de votre roman. Laurent Godet, quelle a été votre plus grande défaite?
Ces dernières années, je me suis beaucoup promené dans des coins du monde qui sont en souffrance. Je pense à Haïti, je pense aux bidonvilles de Port-au-Prince, à Cité-Soleil. Je pense aussi à Calais ou à Grande-Synthe, où j'ai été l'année dernière. J'ai vu beaucoup d'hommes et de femmes vaincus. Et ça a déposé en moi pas mal de défaites. Et écouter nos défaites, c'est pour dire ça aussi. C'est-à-dire que je déteste cette idée que la vie doit être réussie ou ratée. Je pense que la défaite, c'est pas ça. C'est pas rater sa vie. C'est qu'on a tous rendez-vous avec ce moment de l'existence où on sent que quelque chose vacille, on n'a plus la même énergie qu'à 20 ans, on est du côté plutôt de la défaite. C'est pas grave, on peut essayer de le vivre pleinement, de manière affranchie, de manière même peut-être libre et belle. En tout cas, c'est le pari que font mes personnages. Ils vont pouvoir, à un moment donné, s'affranchir de l'obéissance, par exemple, décider d'un certain nombre de choses, parce qu'ils ont justement basculé dans ce temps de l'existence qui est celui de la défaite.
Nous allons vous offrir, vous qui nous écoutez, Écoutez nos défaites, dédicacé par Laurent Godet, édité par Actes Sud, si vous répondez à la question que vous pose maintenant Bernard Lehu.
Alors, Laurent Godet évoque trois figures historiques, des grands combattants, l'empereur d'Éthiopie, Haïlé Sélassié, le général Grant, vainqueur de la guerre de sécession. Qui est le troisième qui défia Rome? Allez, petit indice.
Réponse au 32-10. Laurent Godet, vous restez avec nous dans un instant, les Express de Laissez-vous tenter avec Charlotte Arrigoni.
RTL Matin. Laissez-vous tenter. Les Express LVT.
Bonjour Charlotte.
Bonjour Yves et bonjour à tous.
Bonjour Charlotte.
Voilà, on commence par le retour. Alors, survitaminé de Sting.
3 ans après son précédent disque, Sting sera de retour le 11 novembre avec 57th and 9th. Ce sera le premier album pop-rock du chanteur depuis 13 ans. Sting annonce même que c'est son disque le plus électrique depuis Synchronicity. Le premier extrait a été dévoilé hier soir. Il s'intitule I Can't Stop Thinking About You, un morceau qui rappelle les grandes heures de Police. Extrait. Thinking about
Without You, premier extrait donc du nouvel album de Sting qui sortira le 11 novembre prochain.
C'est notre coup de cœur RTL, on l'écoute depuis ce matin, nous l'écouterons toute la journée et ça reste bien dans les oreilles. Hein. On va parler de Bruce Springsteen maintenant, de son côté il a encore battu un record, Bruce.
Oui, on le sait, le boss âgé de 66 ans a pour habitude de donner des concerts marathons qui atteignent souvent les 3 heures. Et bien dans son fief du New Jersey, le rocker a pulvérisé mardi son propre record. Il est resté sur scène pendant 4 heures et 1 minute. Il aura interprété au total pas moins de 34 chansons, le tout sous les yeux de sa maman, qui à 90 ans était présente dans le public.
Ah, il est bien le petit. Hein. Alors, rendez-vous à ne pas manquer. En novembre, Jean-Paul Belmondo publiera chez Fayard un superbe livre, Charlotte.
Oui, un livre-album titré « 1000 vies valent mieux qu'une », dans lequel Bébel reviendra en détail sur sa formidable carrière et sur sa vie. L'enfance marquée par la guerre, ses rencontres, ses joies et ses peines, les souvenirs de Belmondo seront illustrés de nombreuses photos inédite, issue des archives familiales et personnelles de l'acteur âgé aujourd'hui de 83 ans.
L'Algérie veut que la musique raï soit revalorisée.
Et l'Algérie souhaite pour ce faire que le raï entre au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le raï, c'est un genre musical né au début du XXe siècle. Il n'a débarqué en France que dans les années 80 et c'est dans les années 90 qu'il atteindra une forte popularité, notamment sous l'impulsion d'artistes comme Cheb Mami, Rachita ou encore Faudel.
Tellement je t'aime, je pense à toi. Tellement je t'aime, je rêve de toi. Tellement je t'aime, passionnez-moi. Tellement je t'aime, à la folie. Tellement je t'aime, je pense à toi. Tellement je t'aime, je rêve de toi.
Aux États-Unis, les souvenirs du couple Reagan vont être mis en vente.
La collection privée du couple présidentiel américain va en effet être dispersée aux enchères chez Christie's à New York les 21 et 22 septembre prochains. Sera notamment vendu un cadeau de l'acteur et chanteur Frank Sinatra, un chronomètre de marine du joaillier Tiffany, prix estimé entre 5 000 et 10 000 dollars.
Je vous fais faire un petit choix avant qu'on dise au revoir à Charlotte, si vous le voulez bien, Laurent Gaudet. Qu'est-ce qui vous a le plus touché ou intéressé? C'est Sting, Bruce Springsteen, Jean-Paul Belmondo, la Algérie El Rai, les Reagan.
Springsteen. Je suis génération Springsteen, Nebraska, Missing, forcément Springsteen.
Merci beaucoup Charlotte Arrigoni. C'était bien entendu les Express de Laissez-vous tenter. Elle existe depuis 18h hier soir sur Internet, mais c'est aujourd'hui à 20h que France Télévisions lancera sur le canal 27 de la TNT sa chaîne d'information baptisée France Info. Une création menée tambour battant, Laurent Marcy, que vous avez assisté aux toutes dernières répétitions.
Oui, ça fait maintenant 5 semaines qu'il répète, dont 10 jours d'antenne à blanc. Venez, je vous emmène. Non, nous ne sommes pas à Gare du Nord, dans le hall. Nous voici dans l'atrium de France Télévisions, là où pendant des années étaient installés les plateaux des 13h et 20h de France 2. Germain Dagonet est le directeur adjoint de l'information de France Télévisions et porteur de ce projet France Info.
De la rédaction de France Télévisions. Il y a ici des services de France 2, de France 3. Et puis, il y a la rédaction de la future chaîne Info, France Info, qui s'est installée ici. C'est donc à la fois un studio et une rédaction.
Alors ce jour-là, on répète encore, direction la régie, installée 9 mètres plus haut.
Top à vous. Il est midi, bienvenue sur France Info. Voici les principaux titres de ce journal.
Retour dans le studio, 13 caméras automatiques. Vous savez que j'adore la technique. Ils ont un logiciel baptisé Mozart. En gros, ils appuient sur un bouton et toutes les caméras effectuent un mouvement prédéfini. Quand la présentatrice est au niveau des canapés, au
cœur de la rédaction. Exactement comme nous, RTL.
Les caméras bougent, si vous voulez. Quand la présentatrice est au niveau des canapés, au cœur de la rédaction, il y a également une caméra mobile.
Avec 4 chaînes d'info, la France est donc, avec l'Allemagne, le pays qui a le plus de chaînes d'info aujourd'hui. Chacune veut avoir son style. Alors ça sera quoi, suite France Info?
Alors ils veulent faire de l'info globale, télé, radio et surtout ceci, les smartphones. D'ailleurs, tout sujet doit être aussi déclinable sur les 3 supports.
Vous savez, on vise beaucoup aussi ceux qui nous regardent sur leur smartphone parce que c'est cette génération-là qui maintenant consomme l'information de cette façon. Donc on écrit beaucoup à l'image parce qu'il y a beaucoup de vidéos qui sont regardées sans le son.
Alors c'est pour ça qu'ils ont lancé hier sur Internet et les portables, d'abord la chaîne d'info. Certains sujets sont sans commentaire. Tenez par exemple un...
Top sujet.
Là, il y a de la musique. Pas de voix off. Mais à l'image, vous avez les images qui défilent et du texte sur les images. Ça part en direct sur la télé et sur l'application France Info parce qu'on a plus l'habitude de regarder sans mettre le son sur les smartphones. C'est pour ça qu'ils font ça.
Trois médias associés, Laurent, ça veut dire que ça fonctionne comment? Chacun garde son indépendance?
Oui, exactement, mais les trois ne se complètent toute la journée. Les rappels de titres, ça c'est Radio France, c'est à Radio France que ça se fait. France 24, elle, prend la nuit jusqu'à 6h du matin. France Télé, le reste. Les archives rétro, Célina. Toute la journée, en fait, on valse de l'une à l'autre. Germain Dagonet.
C'est le maître mot de notre projet, c'est la coordination. Les rédacteurs en chef sont reliés en permanence les uns aux autres pour se parler et pour savoir quels angles ont été choisis du côté de Radio France, du côté du web et du côté de France 24. Ce qui fait d'ailleurs qu'on peut s'enrichir les uns les autres du travail que nous faisons chacun de notre côté.
Voilà, pour les visages de la chaîne, on va citer Laurent Bignolas, Louis Laforge, Myriam Bounafa, il y a près de 200 journalistes. Ils sont quasiment sur tous les tuyaux qui existent après. Là où ils feront la différence, c'est sur ce qu'on met dans les tuyaux.
Alors, France Info, un lancement officiel en version TNT sur le canal 27 ce soir à partir de 20h. Nous sommes d'accord. Dans quelques instants, nous allons dire au revoir à Laurent Godet. Vous saurez si vous avez gagné son livre dédicacé. Merci de nous écouter et à tout de suite.
RTL Matin. Laissez-vous tenter. Avec Yves Calvi.
Laurent Godet, vous évoquez donc trois figures historiques dans votre roman qui vient d'être publié « Écoutez nos défaites » aux éditions Actes Sud. Trois grands combattants, l'empereur d'Éthiopie Haïlé Sélassié, le général Grant, vainqueur de la guerre de sécession. Qui est le troisième qui défie Rome ?
Hannibal et ses éléphants, ses 40 éléphants.
Et voilà, et ses 40 éléphants. Si vous nous avez appelé pour nous donner cette réponse, eh bien, vous avez gagné le livre de Laurent Godet qu'il va dédicacer dans quelques instants même dans ce studio.
Merci.
Merci à toute l'équipe, merci à vous d'avoir passé
merci
ce moment
de votre
avec
invitation.
Nous. Heureux de vous accueillir et on va retrouver avec grand plaisir Julien Courbet et toute son équipe.
Comment allez-vous, monsieur Calvi ?
Bon, plutôt bien.
Bon, je vous ai regardé hier soir, très bien. Qui est votre invité ce soir ?
Je ne sais pas encore.
Ah, ben, mais si, vous annoncez dans les bandes annonces, c'est pas le président de chez Dim, non ? Ah non, j'ai pas. Non, comme je vous ai entendu dire ça.
Le président de chez Dim.
Yves Calvi, c'est quoi pour vous mettre les gens au cœur de l'info ?
C'est inviter les meilleurs experts politiques et économiques pour qu'ils nous expliquent tout ce qu'il se passe autour de nous, bref, tout ce qui fait débat.
Il en fait, lui.
Oh non !
C'est pour ça que j'ai pas compris. Non, c'est pas... Elle m'est venue à 7h12, celle-ci, en vous écoutant.
Voilà. J'ai longuement cherché avant de me demander où on allait aboutir.
Il faut aller la chercher très loin.
Oui, oui, oui. Non, bah, c'est bien. On arrive en haut de la jambe.
Allez, exactement. Voilà. Passez une bonne journée.
Passez une bonne journée.